des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone.
Ludwig van, le mythe Beethoven.
Un grand artiste est fait de deux mondes superposés. Au-dessus du sol, la raison claire qui organise le jeu réglé des apparences. Au-dessous, la mer intérieure et la volonté de vivre qui s'y débat et désespérément tâche d'aborder aux rives.
Un extrait de la vie de Beethoven, de Romain Rolland par Alain Cuny, l'artiste surhumain qui parle au ciel comme un prêtre, à la terre comme un prophète. C'est au XIXe siècle qu'apparaît vraiment cette figure. Il y avait déjà eu, au XVIIIe, avec à leur tête Jean-Jacques Rousseau, des gens de lettres et de théâtre qu'enveloppait un effet de célébrité pour le meilleur et pour le pire. Mais le siècle suivant sélectionne quelques personnalités élues dont il attend qu'elles remplissent, fût-ce dans l'angoisse, des fonctions qui dépassent les capacités de l'homme ordinaire. Lord Byron, borné dans sa nature infinie, dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Victor Hugo, ma tête ainsi qu'un mont arrêtait les nuages. On a parlé pour le 19e d'un sacre de l'écrivain. Mais on aurait tort de croire que l'écriture est le seul chemin de douleur et de sacrifice qui puisse rendre certains artistes surhumains. La musique le dispute alors à la poésie. Beethoven en témoigne. De son vivant même, il était une légende. Le jour de son enterrement à Vienne en 1827, les écoles furent fermées. Son convoi funèbre se dirigea tout droit vers l'immortalité. Et en effet, l'effet Beethoven va se prolonger depuis de mille manières, à tel point que si un jour les musiciens classiques, espèce en danger, s'éteignaient, resterait l'ode à la joie, phare sans gardien peut-être, mais qui brillerait toujours.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Marie-Pauline Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec Colin Lemoine, le co-commissaire, la co-commissaire de l'exposition Ludwig van Beethoven après Beethoven à la Philharmonie, musée de la musique, cité de la musique. Enfin, tout le monde sait que c'est à la Villette, un beau catalogue chez Gallimard. Vous aimez bien étudier l'émulation des arts. Je disais qu'au XIXe siècle, la poésie et la musique se disputaient le privilège de créer ces artistes surhumains. Et vous aimez bien aussi regarder comment le pinceau et le ciseau sculptent, peignent le génie.
Tout à fait. Je me suis intéressée à cette problématique tout d'abord pour le XVIIIe. Et ce qui m'a intéressée, c'est vraiment la place avant le XIXe. On connaît dans l'imaginaire, je dirais, savant collectif, hein, la place que recouvre la musique dans l'inspiration artistique au sens large pour le XIXe siècle. Mais tout fomente au XVIIIe siècle, et notamment dans les écrits d'un Diderot, d'un Rousseau. Et la question que l'on pose, mais qui est très importante aussi dans l'exposition, c'est comment comprendre, dès le XVIIIe siècle, hein, cette capacité inégalée de la musique de pouvoir évoquer le monde, de pouvoir toucher si fortement l'âme sans dessiner, sans désigner avec des mots. Donc vraiment, ce discours naît au XVIIIe siècle et contribue au XIXe siècle à, je dirais, l'apothéose spirituelle, artistique de la musique comme langage de l'absolu.
Alors le parcours va dans votre exposition jusqu'à aujourd'hui. Il y a 8 salles, certaines thématiques, la peinture, la sculpture. On parlera plus longuement du cinéma. En peinture, vous avez le Warhol, Beethoven.
Tout à fait.
Donc là, il faut faire la comparaison avec Marilyn Monroe, plus que...
Tout à fait.
Avec Lord Byron. Hein. Mais il faut commencer, parce que c'est pas une biographie de Beethoven que vous avez tenté, c'est une vie d'artiste. Il faut commencer par la légende qui existe dès son vivant et qui éclot alors en un bouquet funèbre extraordinaire le jour de son enterrement.
Oui, c'est vraiment une vie d'artiste, comme vous le dites, que l'on a voulu recomposer à la manière des légendes dorées, hein, de ces vies des saints extraordinaires qui sont basées à chaque fois sur des anecdotes et sur vraiment des récits de vie microscopiques dans lesquels on projette les attentes de celui qui raconte. Alors, tout commence en 1827, comme vous le dites. Tout commence pour notre propos en 1827, 26 mars 1827, mort de Beethoven. Et notre principe, notre parti pris, c'est de montrer combien cette mort n'est qu'une disparition, je dirais, physique, mais elle est bien davantage un passage déjà vers l'au-delà. Beethoven est promis dès son vivant, mais consacré par l'ampleur de ses funérailles et l'attention portée vraiment au corps du mourant, Beethoven est promis à l'immortalité. Il commence un long cycle de métamorphose qui imprègne aujourd'hui non seulement nos consciences européennes, mais le monde entier.
À l'époque, à destination des gypsothèques, des particuliers, il y avait des masques mortuaires, et celui de Beethoven est quand même assez particulier et... Il a fait fantasmer, comme le masque de Napoléon, 6 ans auparavant. Sauf que il n'était pas du tout apaisé. Beethoven, sur son lit de mort, il avait un visage tourmenté, asymétrique, un visage capital de la douleur.
Alors, il y a ce masque vraiment mortuaire, creusé, où on lit, je dirais, on lit le corps en agonie, le corps souffrant, le corps malade, et qui continue, je dirais, au fil de l'histoire, jusqu'à des œuvres très récentes d'Arnulf Reiner, un artiste central de la scène artistique autrichienne des années 1980, qui continue de nourrir l'imaginaire artistique. Il y a le masque mortuaire, mais il y a aussi, en pendant, ce qu'on considère souvent comme le masque de la mort, mais qui n'est pas, c'est le masque sur le vif, auquel je pense que vous faites aussi allusion, c'est ce visage verrouillé, cadenassé, les sourcils froncés, les narines écartées, donc ce visage du misanthrope que l'on a placé en Beethoven, ce qui est largement une exagération, mais qui effectivement est l'image qu'on a gardée aujourd'hui.
Et puis il y a l'oreille, alors la couverture du catalogue de Gallimard, c'est une oreille prolongée d'un cornet. Il faudrait 2 cornets parce que... Comme le dit Dubillard à Claude Pieplu. Non seulement il est sourd, mais...
Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, n'est-ce pas? Une chose qu'il faut avoir tout le temps présente à l'esprit, sans ça on ne comprend pas. C'est qu'à ce moment-là, au moment où il écrivait ça, eh ben, il était sourd.
Beethoven,
sourd, et sourd des 2 oreilles.
Oui. Oui, mais quand même, c'est pas avec ses oreilles qu'il écrivait, hein?
Beethoven. Ah non, je n'ai pas dit ça.
Il écrivait comme tout le monde, Beethoven, avec ses doigts.
Oui.
C'est pas parce qu'il était sourd qu'il pouvait pas écrire.
Non?
Bon, ben, alors, faut pas dire ça.
Quoi, ça?
Ben, ce que vous dites.
Quoi, il était pas sourd, Beethoven?
Si.
Alors?
Mais c'est pas ça qui l'empêchait d'écrire.
Mais justement, c'est ça qui est extraordinaire.
Extraordinaire? Mais mon pauvre ami, moi qui vous parle... Quand il faut que j'écrive quelque chose, vous savez ce que je fais?
Non.
Je me bouche les oreilles pour pas entendre les autos, le raffut qu'elles font dans la rue. Avec de la cire, je me les bouche.
Les oreilles?
Les oreilles?
Eh bien, ça prouve que vous n'êtes pas Beethoven, voilà tout.
Les dialogues de Roland Dubillard. Mais la doxa, le légendaire, disent que c'est parce qu'il est sourd qu'il peut, comment dire, rêver au lieu de composer, surmonter les difficultés inouïes qu'il jette entre les mains des musiciens.
Tout à fait. La surdité, c'est un épisode de vie concret, réel, source d'une souffrance hein, qu'on peut imaginer. Mais effectivement, on a projeté, on a investi en elle. La surdité est devenue le gage du génie. Hein. C'est parce qu'il est sourd progressivement que Beethoven acquiert dans l'imaginaire collectif cette capacité d'entendre l'inouï, l'inaudible, d'entendre ce que personne ne peut entendre, d'expérimenter spirituellement ce que personne ne peut vivre, effectivement.
On recommande aux journalistes dans les écoles l'attaque. Il faut soigner l'attaque. Alors, l'article consacré à la surdité par Esteban Bourg, il y a une attaque extraordinaire.
Je suis bien d'accord. Je dirais une des plus belles phrases du catalogue, c'est l'amorce de l'article d'Esteban Bourg, grand spécialiste de la question.
Écoutez bien.
Selon laquelle, et l'article commence par ces mots, après Dieu, Beethoven est très certainement le sourd le plus célèbre de l'histoire.
Ben, ça rentre dans nos oreilles. Il y a un dispositif d'écoute, d'ailleurs, je crois, à l'exposition.
Oui, c'est vraiment alors, un dispositif qui attire la curiosité. Je suis ravie des visiteurs. On a commandé à Samuel Aden, qui est un jeune artiste acousticien très talentueux, un dispositif qui ne veut pas recréer les conditions d'écoute de Beethoven. On ne prétend pas faire entendre de la manière dont Beethoven entendait, mais jouer avec cette capacité d'écoute intérieure, c'est-à-dire aujourd'hui on a oublié qu'on peut entendre sans les oreilles, qu'on peut entendre en se bouchant les oreilles.
Eh ben, c'est la réponse aux questions que posaient Pieplu et Dubillard dans les dialogues. Alors la figure du compositeur sourd correspond aussi celle de l'auditeur pénétré. Ça vous intéresse beaucoup, Marie-Pauline Martin, le lorgneur curieux et excité au théâtre, l'auditeur pénétré au concert.
Oui, parce que ce qui est fascinant, c'est non seulement la capacité d'une communauté d'artistes, je dirais, de focaliser de manière obsessionnelle sur la tête de Beethoven, mais c'est la réaction que suscite chez ses auditeurs la musique de Beethoven. Et là, je vous invite à venir découvrir dans l'exposition ce tableau grand format de plusieurs mètres de long exceptionnel de Lionello Ballestieri, qui est un artiste italien du début du XXe siècle et qui nous représente dans un atelier d'artistes bohèmes, l'exécution par deux de ces artistes de la sonate à Kreutzer. Et que voit-on à côté les amis artistes écoutant ce concert et comment sont-ils représentés? Absolument pas statiques ni même concentrés, mais dans les attitudes de la vénération, de la dévotion, de la prière, du recueillement, ce qui montre que l'expérience de la musique de Beethoven, c'est devenu une expérience mystique.
Il y a une salle consacrée au cinéma, alors on pourrait évoquer les derniers moments de Beethoven, ceux dont vous parliez tout à l'heure, tels qu'ils sont interprétés par Harry Bohr, dans son lit de mort, dans le film d'Abel Gance. Vous insistez sur la nouvelle vague. Alors, celui qui est le plus musicien chez les cinéastes français de ce mouvement de la nouvelle vague dans les années 50, 60,
C'est Romère. C'est Éric Rohmer. Comment le mesurer? Il y a deux choses. Par exemple, Éric Rohmer est celui même qui est parvenu à mettre en mots cette fascination pour Beethoven. Il est auteur notamment d'un ouvrage, d'un livre paru, je crois, chez Actes Sud à l'époque, intitulé « De Mozart en Beethoven ». Essai sur la profondeur en musique. Donc, il y a cette approche presque théoricienne, comment rationaliser cette fascination pour la musique, pour le langage, je disais, absolu de la musique, purement expressif. Et puis aussi, cette foi déposée en l'effet, je dirais, dramatique ou structurel de la musique. Un des tout premiers films de Romère que m'a fait découvrir Antoine de Bec, que je remercie, c'est la sonate à Kreutzer, justement.
Et Antoine de Bec, dans son article du catalogue, parle de la conversation qu'ont eu Godard et Rohmer pendant qu'ils faisaient ensemble des repérages en Normandie. C'est Rohmer qui passe des disques de Beethoven à Godard, et quand Godard fait prénom Carmen, une réinterprétation de la Carmen de Bizet, il va donner un rôle très, très important à la musique de Beethoven.
Moi, je suis metteur en scène, mais c'est comme si dans ce film, mon vrai producteur, c'était Carmen, qui me disait, ben, fais un film avec moi. Et j'ai pris un scénariste, qui est Beethoven, et je lui ai dit, ben, écris-moi les épisodes. Et il a écrit, alors sous sa forme codée, musicale, il m'a écrit un passage du 10e quatuor. Et puis, je me suis aperçu que ce passage pouvait être, en fait, était la musique qui devait aller avec une attaque de banque.
Thank you.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Le presto du 10e quatuor, celui de l'époque de Wagram, 1809, interprété ici par le quatuor italiano. Mais nous, on ne parle pas de Beethoven vivant, ni de sa biographie, mais de la vie d'artiste de Beethoven après Beethoven, avec Marie-Pauline Martin, qui est en compagnie de Colin Lemoine, et la co-commissaire de l'exposition qui a lieu actuellement à la Philharmonie, à la Villette, à Paris, jusqu'au 29 janvier. Maurizio Kagel, il a fait un film sur Beethoven, l'Argentin installé en Europe, et il imagine Beethoven prenant le train pour Bonn, et il voit ce qui se passe dans sa maison natale. Alors, qu'est-ce qu'il dirait devant l'exposition de la Philharmonie?
Exactement, vous faites référence à une scène cruciale de ce film, appelé volontairement Ludwig van, par Maurizio Kagel. C'est pas un film appelé Beethoven, mais vraiment qui prend distance et qui montre la désincarnation. Qu'est-ce qui reste de Beethoven? Un juste prénom, Ludwig van. Et dans ce film, Beethoven, finalement, revient chez lui, sonne à la porte de sa maison natale, et là, il est accueilli par un Führer, donc un guide en allemand, mais qui est aussi affublé d'une petite moustache et d'une casquette militaire. Donc là, l'amalgame est flagrant. Et ce Führer nous conduit dans la maison pour nous montrer sous vitrine des épingles à cheveux ornées de la tête de Beethoven, des objets reliques ayant appartenu à Beethoven. Donc vraiment inciter aussi l'amateur, le mélomane, à prendre sa distance avec la patrimonialisation de Beethoven. Qu'est-ce qu'il est devenu? Vraiment, il est devenu un homme patrimonialisé, quasiment fétichisé.
Mais on peut, si vous voulez bien, continuer le rapprochement avec l'époque du Führer. Parce que il est fait aussi dans un autre film, le film de Kubrick, d'après l'œuvre de Burgess, Orange Mécanique, 1971. Donc, on se souvient que Malcolm McDowell, le héros, il est à la tête d'une bande d'affidés, et puis finit par être pris, emprisonné, et on tente de le guérir par les méthodes violentes de la psychologie comportementale. On le ficelle à une chaise, et on l'oblige à voir un film, Allemagne nazie, qui est accompagné pour la bande-son de la 9e symphonie que lui, l'amateur de Ludwig van, aime tant.
Et ce fut le lendemain, mes frères. J'avais fait de mon mieux tant le matin que l'après-midi pour jouer le jeu, ficelé sur ma chaise de torture comme un Malchik Caracho et de bonne volonté, pendant qu'on me projetait de sacrées scènes d'ultra-violence. Mais il n'y avait plus de bruitage, mes frères, seulement de la musique. Et j'ai soudain perçu à travers mes souffrances quelle était cette musique qui tenait et grondait ainsi. C'était Ludwig van, 9e symphonie, 4e mouvement.
Qu'est-ce que c'est que ce péché?
Ça! Mêlez Ludwig van à ça! Il n'a fait de mal à personne! Beethoven n'est que musique!
Est-ce que vous parlez de cette musique en fond sonore?
Oui!
Vous connaissiez déjà Beethoven?
Oui!
Ludwig van n'est que musique. Hein? Musique et politique. Musique et Allemagne. Romain Rolland, il écrit sa biographie de Beethoven en 1903. Il ne soupçonne pas ce que sera le nazisme. Quand le nazisme existera, il ne sera pas un de ses plus violents adversaires, d'ailleurs. Mais il dit il y a deux pentes, il y a deux versants. Il y a la personne humaine et la collectivité. Il y a l'Allemagne et l'humanité.
Oui, il y a Beethoven et la communauté des hommes sur laquelle il faut agir. Effectivement, Romain Rolland compose cet ouvrage en... une heure cruciale, un peu indécise, entre l'affaire Dreyfus, entre l'affaire Dreyfus et la Première Guerre mondiale, et Beethoven est vraiment celui qui porte le désir d'affirmer qu'il faut agir face au destin, qu'il faut résister contre ce que Roland déplore, c'est le matérialisme croissant, l'égoïsme des hommes qui mènera, selon lui, il dira après, où on sait. Beethoven, donc, c'est non seulement le héros capable de porter, de cristalliser le besoin de lutte qu'appelle Romain Rolland, mais c'est aussi le consolateur. C'est le héros tragique, mais c'est aussi le héros christique, hein, capable d'apporter une certaine rédemption.
J'en viens à l'Allemagne, il a traversé de grands moments historiques de l'Allemagne. On parlait de la bataille de Wagram il y a un instant. Il incarne, il est le représentant de la grandeur allemande.
Oui, alors déjà pour Wagner, hein, à l'heure vraiment de Sedan, c'est vraiment l'incarnation de la puissance allemande après des siècles de domination de la culture française et de la musique italienne. Effectivement, pour l'Allemagne, Beethoven, à différentes heures de l'histoire, a incarné la puissance nationale. Mais ceci dit, Beethoven a vraiment cette capacité de fédérer, je dirais, toutes les nations. Ce n'est absolument pas que le génie allemand dans lequel on a pu parfois, comme contenait Wagner par exemple, Beethoven s'est devenu le génie apatride, sans frontières, le génie universel. Et par exemple, pendant la Deuxième Guerre mondiale que vous évoquez, certes, le Troisième Reich s'est emparé de Beethoven, mais exactement au même moment, les alliés du son du papapapam construisaient leur campagne, leur propagande.
Sève robuste, arbre, mais à multiples branches, on citait Esteban Bourg, il a écrit une histoire politique de la 9e symphonie, à partir de laquelle, c'est aussi publié chez Gallimard, on a composé ce mixte que voici. Premier extrait, l'ode à la joie, selon la Rhodésie, en 1974. On se souvient peut-être que les Blancs de ce pays avaient tenté une expérience d'indépendance sur le modèle de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Salut à toi, Rhodésie, claire et ensoleillée.
Donnez, Maurice Béjart, une définition de la 9e symphonie.
C'est un concert prolongé. Voyez-vous, le podium prolonge l'orchestre et c'est un concert visuel.
Qu'avez-vous voulu exprimer avec la 9e?
Je crois que c'est un hymne à l'humanité et un appel contre le racisme.
Moi, j'ai proposé au président Hallstein de former une grande chorale mixte avec les fonctionnaires chanteurs et les membres de leur famille chanteurs, étant bien entendu qu'on pourrait y joindre aussi des habitants de Bruxelles, belges ou pas, qui désireraient collaborer à cette œuvre-là. Le problème des langues employées à la chorale, ça lui donne un certain cachet, une certaine atmosphère particulière. Je m'adresse aux choristes dans leur langue. Les indications, je les donne en français, néerlandais, en allemand, anglais, de façon à ce que, même si tout le monde comprend le français, tout le monde ait l'impression qu'on n'oublie personne.
Ce petit florilège composé par Valéry Estaraï correspond seulement aux années 70 et ce sont les débuts là qui sont évoqués. On entendait le nom du président de la commission de l'époque, Hallstein, de l'hymne européen qui est adopté comme tel à partir de l'Ode à la joie en 1972. Alors avec cette grande idée, les langues divisent, la musique réunirait.
Oui, alors ça, ces deux exemples sont très bien analysés justement par Esteban Bourg dans son ouvrage fondateur. La même œuvre, la neuvième, mais pour des idéologies différentes. Vous parliez de la Rhodésie, l'actuel Zimbabwe. Rappelez que c'était l'hymne d'une république, certes, mais d'une république ségrégationniste et qui, quasiment simultanément, quelques années après, devient l'hymne du rassemblement européen, du rassemblement fraternel des peuples de l'Europe. Alors c'est vraiment cette dualité, cette dichotomie, cette aberration d'une œuvre capable de porter une idéologie et son contraire, que l'on prolonge aussi dans l'exposition en insistant sur son devenir contemporain.
Mais c'est plus facile de faire l'histoire d'un symbole, comme le fait le livre d'Esteban Rook, que de faire de la musique le symbole d'une loi d'unité de l'histoire. Juste une question avant que vous parliez de l'écho aujourd'hui. L'écho ailleurs, c'est une musique fétiche de l'Occident je vois qu'il y a un monument à Beethoven depuis l'an 2000 en Chine, que Daniel Guichard, que vous n'avez pas cité dans l'exposition, avait organisé un grand machin dans les années 1980, l'exécution de toutes les symphonies de Beethoven en Chine, confiée à l'organisateur Daniel Guichard, je répète.
Tout à fait. Ce sur quoi on assiste beaucoup dans l'exposition, c'est la carrière mondiale de Beethoven aujourd'hui. Et ça, dans le monde, vous avez raison, on a créé une application sur aujourd'hui, où sont les monuments à Beethoven? Bien sûr en Allemagne, bien sûr en Europe, mais c'est fascinant de voir que ces monuments, donc payés par des pouvoirs publics, inscrits dans des espaces publics, sont présents à travers toute l'Asie, 2 au Japon, 3 en Chine, toute l'Amérique du Sud. Et on a fait aussi tout un travail sur l'Afrique. Que signifie, par exemple, au Congo, que signifie à Kinshasa le fait de jouer annuellement, de travailler annuellement pour un orchestre amateur des banlieues de Kinshasa, la 9e symphonie, c'est ce qu'on étudie dans l'expo.
Alors, je vous ai fait répondre à la question où et la question que vous vous posiez aujourd'hui.
Aujourd'hui, alors c'est très fascinant de voir, surtout aux heures urgentes de l'histoire, à l'expression, je dirais, pressante d'un vivre ensemble suite aux événements tragiques, de voir à quel point Beethoven continue de jouer ce porte-parole d'une idéologie, mais parfois très contrastée. Et là, je donnerai par exemple deux exemples. Moi, j'ai été frappée il y a juste un an, à l'heure vraiment du succès croissant de l'AFD, l'Alternative für Deutschland en Allemagne. L'AFD organise une manifestation contre la politique des réfugiés, d'accueil des réfugiés de Merkel. Et cette manifestation jouxte l'opéra de Mayence. Que fait l'opéra de Mayence? Est-ce qu'elle descend dans la rue pour casser du fasciste, entre guillemets? Non, elle ouvre grand les portes de l'opéra et elle chante à tue-tête la 9e pour contrer ces manifestations.
Ludwig van, l'exposition Beethoven après Beethoven, le mythe Beethoven, la Philharmonie, le catalogue chez Gallimard. L'émission a été préparée par Franck Olivard avec à la technique Loïc Frapsos. Et votre programme, cher Mathieu?
Oui Jean, dans la tête au carré, on va parler de la non-violence aujourd'hui, ça va nous faire du bien dans ce monde hostile.
Et puis je vois que vous avez un chanteur, vous aussi, parmi vos invités.
Jean-François Bernardini, du groupe Imouvrini, absolument.
Voilà. Et Laurent Beg, qui sera en votre compagnie.